FM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est la seconde partie des experts, on est ensemble jusqu'à 10h30. C'est le nouvel horaire des experts, 9h30, 10h30, tous les jours sur BFM Business. Avec toujours autour de la table Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Denis Père, président de Nature et People First et Eudox Denis, vice-président du think tank Propriété et Liberté. Je voulais qu'on revienne sur la une de nos confrères de l'Opinion aujourd'hui qui titre « Petite taxe, beaucoup de bruit pour rien ». Toutes ces petites taxes votées ces dernières années et qui finalement n'ont pas rapporté grand-chose. La principale, c'est celle sur les petits colis, en tout cas la plus récente. Pas la principale, mais la plus récente. La taxe sur les petits colis qui devait nous éviter la submersion des colis chinois et rapporter beaucoup d'argent. Le directeur général des douanes, Florian Collas, a été auditionné il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'il rapporte 13 fois moins que prévu cette taxe. Oh, surprise. Est-ce que ça vous surprend, Denis Père?
Ah, pas du tout. Enfin, c'est vraiment l'illustration parfaite de la courbe de l'affaire, quoi. Où trop d'impôts tue l'impôt, où la base taxable, elle est mobile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les colis, ils sont pas entrés par la France dans l'Union européenne, ils sont entrés par les pays voisins. Et on a perdu en plus l'activité économique qui était liée à ça, parce qu'il y a une activité économique dans les aéroports, des transitaires, etc. Donc tout ça est
dans les entrepôts,
en Belgique,
on a des aéroports particuliers, des entrepôts complètement vides.
Voilà,
on participe, c'est très bon pour la Belgique.
Ou dans d'autres pays voisins. C'est assez étonnant que ça n'ait pas été anticipé. Surtout, effectivement, c'est pas nouveau. Enfin, la mobilité de la base taxable, on l'avait vu effectivement pour les yachts aussi, hein, avec la fameuse taxe sur les super yachts en 2017, ou avec la disparition de, si je me souviens bien, c'était la disparition de l'ISF qui avait justifié la transformation en IFI, justifié de dire on va pas quand même exonérer d'impôts ces super yachts, ces ultra riches, c'est un scandale. Donc on va faire une taxe sur les super yachts qui devait rapporter 10 millions d'euros et qui rapporte aujourd'hui 60 000 euros puisque il y a rien de plus mobile qu'un yacht par définition. Donc ils sont tous partis dans des ports voisins et on a perdu aussi, ce qui est absolument dramatique, on a perdu toute l'activité de maintenance sur la Côte d'Azur. Il y avait en particulier de très nombreux chantiers tout le long de la Côte d'Azur qui vivaient, qui prospéraient grâce à ça, et ces yachts sont partis.
Donc c'est la
Donc il y a une destruction, il y a non seulement beaucoup moins de rentrées fiscales, mais aussi beaucoup de destruction de richesses. C'est bien sûr aussi l'ISF, hein, qui est un bel exemple aussi de base taxable mobile, par définition. Avec cette frénésie effectivement fiscale qui est caractéristique du pays, avec d'ailleurs souvent beaucoup d'intelligence. Là, il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même souvent beaucoup d'intelligence dans la conception des impôts. Beaucoup de professionnalisme dans la collecte des impôts. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point on est finalement très très professionnel. On utilise les dernières technologies, l'IA maintenant, pour concevoir des taxes en général efficaces, ce qui est pas le cas ici, mais en général efficaces. Et puis les collecter, les recouvrir. D'ailleurs, la réputation de la France dans sa capacité à recouvrir l'impôt est ce qui justifie, entre autres, aujourd'hui, le fait d'avoir des taux sur nos emprunts d'État, nos OAT, qui restent à peu près raisonnables, même s'ils augmentent. Et le paradoxe avec, à côté, l'absence de rigueur sur la dépense, qui est juste invraisemblable. Avec un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais un des leviers fondamentaux sur la dépense sociale, c'est évidemment les multiples aides sociales qui sont versées. Il y a plus de 400 aides sociales. On en a au niveau de l'État, on en a aussi au niveau des régions, au niveau des communes, etc. Tout ça n'est pas tracé. Ça serait très simple de dire, on attribue un numéro fiscal, vous donnez une aide à quelqu'un, il y a un numéro fiscal associé, on sait qui touche quoi. Et donc aujourd'hui, on sait très bien, c'est pas le cas.
Le vaste chantier de l'allocation sociale unique.
Mais bien sûr, avec malheureusement beaucoup de gens qui d'ailleurs sont parfaitement rationnels, qui à un moment donné touchent des aides qui sont pratiquement équivalentes à ce que leur apporterait un emploi à plein temps et qui préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller travailler. Et donc on commencerait par juste tracer ces aides, donc faire preuve d'un peu de professionnalisme sur à qui on attribue quoi, on aurait la vérité des aides versées, et on pourrait dire on plafonne à 70% ou 80% du SMIC, qui était dans le programme de François Fillon 2017, qui serait, paraît-il, dans le programme de Bruno Retailleau pour la présidentielle, absolument, celui aussi de David Lisnard à ma connaissance. Donc heureusement, ces idées reviennent, mais c'est des choses relativement simples à mettre en œuvre, de professionnalisme de base, qu'on n'a pas du tout du côté de la dépense. Encore une fois, on a pas mal de professionnalisme côté fiscal, côté rentrée fiscale, et beaucoup moins côté dépenses, particulièrement dépenses sociales.
Bon, le Docs Denis, qu'est-ce qui explique ça, la multiplication de ces taxes dont j'arrive pas, moi, à imaginer que Bercy ne sait pas que finalement ça va rapporter finalement assez peu. C'est quoi ? C'est des objets politiques,
fiscaux. Cette taxe, elle a, c'est un pur signal politique. Alors déjà, moi, je pense que le bon angle d'attaque, c'est pas tellement le rendement, parce que en réalité, quand vous regardez d'ailleurs l'audition de,
c'est quand même l'intérêt général d'un impôt, non ?
Alors, je vais y venir. Ça dépend, parce que quand vous regardez l'audition, ils sont, moi, je l'ai trouvé assez détendu en réalité dans son audition. Et je pense que dès le départ, l'administration savait que le rendement serait très faible. Pourquoi ? Parce que la France était allait devenir la seule à taxer avant qu'il y ait un mécanisme européen. Et donc, la vraie question, c'est plutôt que, enfin, un impôt, ça peut servir plusieurs objectifs. Et en l'occurrence, là-dessus, est-ce que c'était une taxe qui visait à faire du rendement, ou est-ce que c'était la fiscalité comportementale ?
Oui. En réalité, plusieurs objectifs, ça fonctionne assez mal.
Voilà. Et le drame, c'est que dans aucun cas, ça a marché. Alors, bon, en réalité, ce que dit Florent Cazes dans son audition, c'est que c'était plus ou moins su. Ça pose une question sur la réalisation des études d'impact, parce qu'en fait, elles sont faites par ceux qui veulent promouvoir les mesures. Ouais, donc, oui. En fait, ce ne sont pas des vraies études d'impact
sur la santé. Probité,
oui, donc voilà, c'est un vrai sujet. C'est pas seulement sur les taxes. Et donc, on sait d'ailleurs, enfin, ce qu'il dit dans son audition, c'est que finalement, cette taxe, c'est un instrument provisoire, le temps que, à partir de juillet, il y a un mécanisme européen, et qu'en réalité, la manière de traiter le problème qui était à la racine, hein, qui était le d'importer des produits qui étaient non conformes, oui. C'est du côté de l'administration des douanes, des procédures électroniques qui vont être mises en place. Donc ça, c'est pas très vendable politiquement. Donc ça ramène effectivement au sujet de départ, qui est pourquoi on multiplie ces taxes. Moi, je ferai le lien avec l'inflation normative. Aujourd'hui, il ne reste que deux leviers politiques. C'est la taxe et la norme. Il n'y a pas de levier d'action réel. Et donc, ces leviers, aujourd'hui, trahissent de plus en plus l'impuissance de l'État. C'est-à-dire qu'à force de les utiliser outre mesure, ils ne font que révéler l'impuissance publique.
Pourquoi il n'y a plus de levier d'action hormis les normes et les taxes ? Parce que c'est l'Europe qui décide ? Parce que l'économie s'impose ?
Parce qu'on vit dans une économie de marché, qu'il n'y a plus d'économie administrée, et que on est sorti de l'époque où la rue de Rivoli dicter l'activité des entreprises, et fort heureusement.
Bon, donc c'est de l'impôt politique finalement davantage que de la fiscalité. Qu'on
oui,
voit
c'est
avec
comme la c'est comme la lutte aussi contre la fraude fiscale dans certains pays. On va récupérer de l'argent. C'est chaque fois ce qui est dit pour faire combler des trous. En fait, on voit qu'on ne récupère jamais ce qu'on pense au départ. Et puis surtout, il y a toute chose égale par ailleurs. On prend une mesure, on va taxer des gens, et on se dit bon. Avant, il n'y avait pas de taxe, maintenant il y en a une, par exemple, sur les yachts et ainsi de suite. Bon, le type va dire, il y a une taxe. Au lieu de se dire, quel est le comportement opportuniste qu'il va pouvoir utiliser ? Est-il compliqué ? Là, vous l'avez très bien rappelé, pour les yachts, c'était vraiment facile de les déplacer, sauf à supposer qu'ils soient fixés et qu'on mette un cadenas dessus. Mais il y a plein de choses
comme
ça.
C'est vraiment la nature.
Et donc, ici, au niveau de l'Europe, quand vous dites les gens s'en doutaient, si vous êtes le seul à taxer et que la voie, c'est vos propres infrastructures et qu'on peut passer intra-européen, on se doute bien que ça va faire un gruyère et qu'on peut même se demander comment ceux qui le font, si c'est pas une obligation pour des raisons, j'en sais rien, moi, sanitaires ou autres, que ça doit passer par des autorités de contrôle, il y a même une taxe qui soit prélevée, parce que à partir du moment où tout le monde le fait, pourquoi est-ce qu'il y a encore quelques derniers qui ne le font pas ? Donc c'est eux, ils ne sont vraiment pas passés au travers. Et c'est même gênant, parce qu'ils peuvent se dire, moi je ne sais pas passer au travers, parce qu'il y a encore une autre réglementation qui m'oblige un cachet particulier ou j'en sais rien, et c'est moi qui suis pénalisé, alors que c'est peut-être des choses beaucoup plus louables, hein, j'en sais rien, moi des produits pour des médicaments ou autres, alors que toute une série de trucs qu'on trouve tout à fait... Pas très intéressante, même pour la population, ils passent, eux, sans problème, et finalement, c'est la France qui paie. Donc, je pense qu'il y a ce jeu aussi, vous avez vu, c'était aussi à un moment donné la taxe universelle, hein, de dire à un moment donné la taxe universelle, j'entends, sur le capital, ou bien sur les flux, ou bien sur les transactions. Si on la met tous ensemble, avec la même intensité, la même rigueur, ça a du sens. S'il y a deux ou trois pays qui le font et pas les autres, ben on sait ce que
oui,
ça donne.
Oui, la taxe sur les transactions financières qu'on n'a jamais réussi.
Et donc la naïveté, toute chose égale par ailleurs, les gens ne bougeront pas, alors qu'on sait qu'ils ont un comportement opportuniste légitime quand ils regardent leur cas à eux, et ils ne sont pas non plus obligés de téléphoner à l'administration en disant « écoutez, vous pouvez le faire, mais ça ne nous inquiète pas trop ». Ben ça, évidemment, ça restera toujours un fer de lance qui fera qu'on n'aura jamais les recettes qu'on pense
avoir. Il y a quand même des leçons à tirer.
Moi, je reviens sur ce que disait Docs Denis, qui est très intéressant. On arrive aux limites d'un modèle, effectivement, taxatoire. Quoi. C'est-à-dire que le seul levier que connaît l'État, pour français en tout cas, pour faire entrer des ressources dans ses caisses, c'est les taxes, jusqu'à la caricature. absolue qu'on vient d'évoquer à l'instant, au lieu de s'attaquer à l'autre levier majeur qui est la dépense et qui est l'optimisation de cette dépense, rendre cette dépense efficace. Effectivement, c'est la caricature
d'un modèle. Sur lequel il a vraiment la main pour le coup, alors qu'on voit que les taxes, ça dépend de la croissance, ça dépend de la mobilité aussi.
On est aux limites, on est en pleine courbe de l'affaire.
Et il y a aussi un deuxième point, cette volonté de, à un moment donné, quand on ne sait plus taxer à l'intérieur du pays, c'est aller taxer des gens qui sont à l'extérieur ou des gens qui font du commerce mieux que nous parce qu'ils ont une taxation moins importante, des marges plus élevées, ils sont plus compétitifs, et dire ben, ceux-là, on les a attrapés à l'entrée. C'est évidemment une manière d'autodéfense, mais c'est pas généralement très efficace.
Ou on les empêche de partir.
Parce que c'est un peu comme si vous preniez un aspro quand vous avez un vrai problème de santé, vous soignez le mal local, mais vous ne soyez pas le reste. Et donc ici, dire à un moment donné, face à des sociétés, quel que soit le pays, qui rentrent chez nous avec un avantage compétitif, si d'abord on ne s'attaque pas à l'avantage compétitif, c'est pas nécessairement en augmentant des taxes, même s'il faut se protéger, on est bien d'accord dans le commerce international, quand il faut pas être non plus naïf, mais il y a quand même toute une série de mots au départ qu'on n'attaque pas, et généralement, on n'est pas gagnant quand on fait ça. On joue réactif plutôt que proactif, et sur ce genre de commerce, et notamment les colis et ainsi de suite, il faut prendre une mesure où on est sûr que ça va d'abord marcher, et deux que...
Pour ça, il faut attendre le niveau européen.
Et deux qu'on reste quand même compétitif par rapport aux produits qui rentrent.
Évidemment. Je reviens juste sur Balzac, parce qu'il a des formules qui sont extraordinaires, et quand il parlait, pour revenir, cette notion un peu d'impuissance de l'État malgré des moyens formidables, il parlait d'un pouvoir gigantesque mis en mouvement par des nains. C'est exactement ça sur la taxe sur les petits colis.
Effectivement. Bon, quelques leçons à tirer, quand même. La coordination, essayons d'avoir une fiscalité efficace qui ne part pas sur 1000 objectifs différents. Sinon, évidemment, ça te fait peu de recettes au final. Allez, il est à 9h10, passé de 13 minutes. Je voulais qu'on en vienne au dernier sujet de débat ce matin. À quoi sert le G7? Le G7 finance les grands argentiers de ce monde, ministres des Finances et banquiers centraux des 7 premières puissances mondiales, hors Chine, évidemment, sont réunis à Paris, au ministère de l'Économie et des Finances ce matin. Les discussions ont repris à Bercy entre les grands argentiers. Alors hier, ils se sont inquiétés de la hausse des taux, évidemment, qui pénalise tout le monde. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de trouver une position commune sur les questions commerciales et l'approvisionnement en métaux critique. Alors, on va écouter d'ailleurs tout de suite Roland Lescure, qui était au micro de BFM Business ce matin, au micro de Laure Clausier. Il est plutôt optimiste, il nous promettait un communiqué final.
On est dans un moment où on a des désaccords fondamentaux, notamment sur la manière de régler les déficits commerciaux. On en parle, on s'engage, on avance, on progresse. Vous savez qu'on a signé un accord, l'Europe et les États-Unis, l'été dernier. On est en train d'avancer vers sa ratification. Cette rencontre le montre plus que jamais qu'au fond, la loi du plus fort et le bilatéralisme, ça ne fonctionne pas.
Bon, alors la loi du plus fort et le bilatéralisme, ça ne fonctionne pas. C'est un peu le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Le monde des empires, plutôt carnivores, Roland Gillet. Qu'est-ce que vous tirez des discussions de ce G7 depuis hier?
Un G7 a au moins l'avantage, même s'il n'a pas la Chine autour de la table, d'avoir des gros protagonistes, et dont certains sont dans la même zone, au niveau de l'Europe notamment.
Oui.
Bon. Mais d'un autre côté, la loi du plus fort, quand on a un plus fort qui n'est déjà pas là, la Chine, et le grand plus fort, c'est pas Bessent, c'est Trump qui n'est pas là non plus, c'était pas son rôle, puisque c'est les ministres
de l'économie,
on est bien d'accord. Donc c'est le secrétaire au trésor qui est là.
Mais vous savez
que c'est un préparatif.
Chef d'État.
C'est un préparatif, justement, pour le mois de juin. Et donc, on voit déjà qu'est revenu hier beaucoup sur la table, à juste titre, le détroit d'Ormuz et les deux conflits. L'Ukraine et le problème en l'Iran. Et vous voyez de nouveau là derrière, il y a un gros qui compte plus, même s'il impose les choses via son président, qui lui a au moins les moyens de sa politique dans l'énergie, puisqu'il en est exportateur net. Et lui, à part le prix à la pompe sur le pouvoir d'achat, il les pompe de son sous-sol de manière générale. L'énergie, d'un point de vue géopolitique, dans un climat guerrier, vu l'avantage militaire évident, il est relativement à l'aise. Et trois, malheureusement, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, il y a les fameuses 7 grosses valeurs, ça c'est sûr, mais il y a aussi l'évolution du PIB américain, sans parler de Trump, depuis la crise de 2008. Si vous regardez 2010 à 2023, plus de 30%, plus 34%, plus 21% en Europe, on ne parle pas de l'évolution de la bourse. Donc clairement, il y a quand même un dynamisme, un pragmatisme, ce que vous voulez aux États-Unis, qui fait la différence, et qui aujourd'hui fait, quand on parle avec Trump, on ne parle pas qu'avec Trump, on parle avec le président, qui est derrière les États-Unis ou qui est devant les États-Unis, selon comment vous voulez le positionner. Et donc, cet acteur, quand on dit « nous ensemble », il dit des choses de façon tout à fait désagréable, c'est certainement vrai et parfois pas nécessaire, mais de l'autre côté, il nous dit aussi des réalités sur lesquelles on va bien être obligé d'adresser le problème, que ce soit au sein de l'OTAN, que ce soit au sein de l'Ukraine, encore aujourd'hui. Les Américains disent souvent, les Européens disent que ça les sert, que quand ils mettent des moyens, ils doivent acheter du matériel américain. Mais avant qu'on ne les y oblige, il y avait déjà 78% qui étaient du matériel acheté aux États-Unis parce qu'eux en avaient et pas nous.
Et oui.
Donc il faut regarder quand même les points de départ. Et aujourd'hui, on voit quand même que... Ce qui nous ennuie très fort, c'est le détroit d'Ormuz. Les Chinois ne sont pas là, mais eux aussi. Les Japonais, clairement également. Nous aussi, pour toute une série de choses. Les Américains, je ne dis pas qu'ils sont en spectateur, mais ils sont, eux, beaucoup moins concernés. Et donc, c'est un peu les intérêts de chacun qui poussent l'agenda sur ce qui va être décidé au mois de juin. Et on voit pour le moment qu'il y en a un acteur qui, lui, est très pressé parce qu'il a un mi-terme devant lui. C'est le président américain.
C'est Donald Trump, évidemment.
Et donc, on n'a pas non plus le même agenda politique que lui, et les Iraniens n'ont pas d'agenda politique structuré, eux, du tout. Et les deux autres blocs, la Chine et la Russie, non plus. Donc, clairement, aujourd'hui, tout ça joue dans la balance, mais chacun défend... On est tous en conflit d'intérêts quand on est autour des négociations.
Tout ça se voit, évidemment. Évidemment, et tous ces pays discutent en permanence entre eux. Donc, à quoi ça sert un G7 aujourd'hui, Dox Denis ?
Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut relire aussi le discours de McCarney. Il pose un peu les termes du débat.
La question
aujourd'hui pour les pays comme la France, c'est est-ce qu'on peut encore peser en tant que puissance moyenne dans un monde qui a rompu avec le multilatéralisme. Vous parliez du fait qu'on n'avait pas le même agenda que les États-Unis, on ne parle plus le même langage. Moi, j'ai relu le communiqué qui a été émis par les ministres des Finances à l'issue du G7, là, le 6 mai. On est peut-être le dernier pays qui fait encore référence à l'OMC. Vous n'imaginez pas les Américains parler de l'OMC aujourd'hui.
Oui.
Donc la question, c'est est-ce qu'on arrive au sein du G7 à former un embryon de coalition de puissance moyenne entre la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, par exemple, et à peser collectivement face à des Américains qui sont une logique d'hégémone et d'instrumentalisation en fait des organes multilatéraux pour pouvoir remplir leurs objectifs géopolitiques, ou est-ce qu'on va acter finalement cette rupture qui était annoncée par Marc Carney. Et je pense que le problème pour la France, c'est que autant on peut être assez satisfait en tant que Français du volontarisme qui est exprimé par notre exécutif, autant on peut être inquiet quant à notre capacité à peser du fait de notre manque de crédibilité, parce que la France aujourd'hui est vue comme un pays qui n'a pas su accomplir les réformes de ses voisins, qui est en déclin économique, en déclin culturel, en déclin presque civilisationnel. Donc le vrai sujet, c'est celui-ci, c'est qu'en fait ce que cherche à faire la France, les intentions sont plutôt bonnes, et en tant que Français patriote, on ne peut qu'y souscrire. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions-là ? Et la France, aujourd'hui, n'est plus en capacité de dicter un agenda et même d'embarquer ces autres puissances moyennes.
Dicter un agenda, mais d'organiser ces rassemblements, effectivement, et d'avoir une voix qui peut porter. C'est aussi l'occasion de ça, peut-être, de ce G7.
Oui, peut-être. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que les derniers développements autour de l'Iran vont peut-être amener Donald Trump et les États-Unis à revoir, effectivement, cette attitude très hégémonique, où après avoir attaqué effectivement les Européens avec le Groenland.
Vous y croyez ça ?
Et moi,
qu'il soit moins hégémonique.
Moi, je pense qu'il est capable d'apprendre de ses erreurs, comme tout individu normalement constitué. Et j'ose espérer qu'effectivement, se retrouvant seul face à l'Iran, n'ayant pas réussi à former une coalition pour l'aider à vaincre effectivement un régime qui, de toute évidence, est absolument épouvantable. Et je pense que les Européens auraient volontiers suivi une coalition avec les États-Unis pour venir à bout de ce régime qui, en plus, effectivement, exerce un chantage épouvantable, scandaleux sur le détroit d'Ormuz, s'il n'y avait pas eu, effectivement, ces attitudes extrêmement agressives sur les questions commerciales dans les trimestres précédents. Et donc, il y aura peut-être, pour les années à venir, en tout cas, c'est ce que j'espère, une leçon qui sera tirée du côté des États-Unis. Et ce que je trouve intéressant aussi au G7, c'est qu'effectivement, on se retrouve tous sans la Chine, qui est quand même un sujet majeur aussi de préoccupation par rapport, effectivement, aux matériaux rares. Et là aussi, au chantage espionnage qu'exerce la Chine sur les terres rares, hein, puisque la Chine a été extrêmement visionnaire et en même temps a aussi su tirer parti de ses normes sociales et environnementales au rabais et donc a pris un leadership ces 20 dernières années sur les terres rares. Il faut se rappeler que les terres rares, hein, c'est ces 17 matériaux au nom imprononçable qui sont critiques dans la défense.
Et contrairement à leur nom, ne sont pas rares du tout.
Ne sont pas rares du tout, mais qui nécessitent effectivement un process effectivement extrêmement lourd de raffinage et très polluant potentiellement. Les États-Unis et l'Europe étaient leaders jusque dans les années 80 sur ces segments. Et on a complètement abandonné ces segments à la Chine, qui est devenue un leader majeur avec des productions à 80-90% de la ressource mondiale, qu'elle weaponise aujourd'hui, qu'elle utilise contre nous, effectivement, parce qu'on a laissé filer ses savoir-faire. Et donc là, il est intéressant qu'on se retrouve entre nous pour discuter de la façon de rééquilibrer, effectivement, les règles du commerce dans ce domaine-là. On ne rééquilibrera que si on a des coûts qui sont comparables. Et on n'aura évidemment pas les normes environnementales ni sociales de la Chine. Donc il faut en discuter. Il faut probablement des compensations environnementales, sociales, aux frontières, etc. pour essayer de rééquilibrer le commerce sur les terres rares, mais pas que, et éviter que la Chine weaponise effectivement cette domination et s'en serve contre nous.
Ce « nous », il doit être au niveau du G7 ou il est plutôt au niveau européen, Roland Gilles?
Pour le moment, il est certainement des deux côtés. Mais justement, la Chine n'étant pas là, ça simplifie un peu les discussions, puisque quand il y a un point compliqué, on dit c'est de la faute des Chinois. Comme les Chinois ne sont pas là, ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas dire surtout pourquoi eux agissent aussi.
Évidemment.
Et il y a un point, moi, je trouve, qui est très important pour les Européens, et ils le savent, c'est que d'un côté, quand ils sont face aux Américains, les Américains, ils ont la suprématie sur l'énergie, ce qui permet d'ailleurs à l'industrie d'être beaucoup plus profitable déjà au départ que la nôtre, dans tous les cas l'industrie. Mais vous avez vu que dans les sociétés de services, ils sont pas mal non plus, donc ça veut dire que ça pose problème. Deux, sur le plan géopolitique, ils ont une vraie armée mondiale respectable et le contrôle du ciel. Et trois, dans le domaine de tout ce qui est innovation, ils sont pas mauvais non plus. Donc eux, je vais dire, on peut faire du complémentaire avec eux parce qu'on a besoin d'énergie, parce qu'on a besoin d'être encore défendu, parce qu'on a... Mais du côté chinois, eux, ils ont les mêmes problèmes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une armée digne de ce nom, mais vous avez vu qu'ils viennent de perdre 10 responsables, ou en tout cas de les mettre dehors au niveau de l'armée, premier élément. Deux, vous avez vu que dans les conflits au niveau de l'Ukraine, c'est quand même très sympathique de dire on ne condamne pas, et de l'autre côté récupérer une partie de l'énergie, parce qu'eux ont besoin d'énergie comme nous carbonée, et de l'aller la chercher au passage, et de permettre d'ailleurs à Poutine d'avoir des moyens supplémentaires pour continuer la guerre avec nous. Donc clairement, eux, ils sont sur les mêmes problèmes. Regardez le détroit d'Ormuz, c'est un problème encore plus chinois, mais c'est un problème d'énergie carbonée qu'on a encore besoin maintenant et que les Européens rencontrent,
oui,
pas les Américains. Si vous prenez maintenant sur le reste du commerce, les Chinois, leur surplus, où voulez-vous qu'ils le placent? Ils sont très productifs, on sait bien qu'ils vont venir certainement essayer d'en écouler chez nous. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes, mais ils sont sur le même mode de concurrence. Et étant donné les points de départ et géopolitiques, ils ne nous auront jamais aidés, ils ne nous aideront sans doute pas. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Et sur le volet de l'énergie, ils sont aussi coureurs derrière de l'énergie. Et sur les terres rares, ça, vous l'avez très bien dit, ils ont un leadership en dehors de ce qu'ils ont comme terres rares chez eux, c'est parce qu'on accepte encore en Chine de polluer très fortement par le processus qu'il faut pour avoir ces terres, je vais dire, quand elles sont en état vraiment d'être utilisées. Et de nouveau, je ne suis pas sûr que nos populations, pas plus avec le gaz de schiste d'ailleurs à un moment donné en France, qu'aujourd'hui, si on disait on les rapatrie, on trouverait un système. Donc il faut qu'on soit quand même cohérent entre nous. Je trouve que les problèmes, ils viennent quand même de dire trouver un accord avec la Chine, c'est un accord entre concurrents avec des mises de départ les mêmes. Avec les Américains, on peut encore espérer, mais je suis d'accord avec vous, ça ne prend pas du tout la tendance maintenant, avec Trump au pouvoir, à avoir des complémentarités qui, par le passé, nous ont rendus quand même très forts au niveau de l'OTAN, au niveau du bloc. Quand tu disais l'Occident, c'était l'Europe et les États-Unis. Donc, il faut faire très attention. Et les Américains ne sont quand même pas tout à fait naïfs. Trump fait semblant, voilà. Mais vous voyez bien qu'il veut quand même pas... Il veut sûrement nous asservir beaucoup plus que les autres, par sa puissance actuelle. Mais je ne pense pas qu'il a envie, à un moment donné, de séparer complètement et de laisser aller l'Europe à volo. Ça, il ne faut pas non plus exagérer.
Bon, sur les matériaux critiques, à quoi ça va servir un communiqué commun, si on est sans la Chine? Question bête, mais c'est quand même l'un des grands piliers des discussions de ce G7, avec l'énergie et la guerre commerciale.
Qui est un front commun, qui est tout simplement un front commun des clients de la Chine sur les matériaux rares, pour dire à un moment donné, stop, on n'accepte plus effectivement cette weaponisation de la domination de la Chine sur les matériaux rares, et toute attitude hostile vis-à-vis d'un membre du groupe entraînera une réplique collective, déjà pour commencer. Et puis ensuite, des réflexions sur comment rééquilibrer effectivement les échanges sur ce
les
segment.
Les grands déséquilibres mondiaux.
Sur ce segment, parce qu'il y a des écarts de coûts qui sont considérables. On n'arrivera jamais, effectivement, comme le disait Roland à l'instant, au coût chinois, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes normes environnementales et sociales. Et donc, il faut à un moment donné trouver des règles de fonctionnement qui feront qu'on aura un commerce de nouveau équilibré sur les matériaux rares, et puis peut-être même d'autres sujets derrière, parce que ce n'est pas le seul domaine sur lequel on est impacté. Mais déjà, commencer par ce sujet-là, ça serait bien. Et donc, un communiqué commun qui trace la route, qui donne une voix, qui donne une vision sur ce sujet-là, ça serait déjà très bien, parce qu'effectivement, on est tous partis liés. États-Unis, Europe, Amérique du Nord, incluant le Canada, on a tous le même problème, et on est tous des démocraties, on partage tous les mêmes valeurs, et donc on est tous dans le même bateau face à une Chine qui, sur ce sujet-là, a une attitude qui est totalement en contradiction avec notre vision.
Vous avez vu que c'est un des points du G7, hein, parce que la Chine, de nouveau, n'y est pas, c'est de dire, ne nous adressons plus seuls à la Chine, hein, et les Européens en premier disent, il faut qu'on ait une réplique commune, parce que sinon, on rentre dans du beurre. Hein. Le dumping, il sera pratiqué aussi.
On verra ce que dit le communiqué final du G7 Finance, attendu dans les prochaines minutes, fin de matinée, prochaines minutes, prochaines heures, sur ces différents sujets. Merci à tous les trois, Roland Gillet, le Docs Denis et Denis Père, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes. Tout de suite, vous retrouvez Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spécial Leadership. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, en direct à 9h30 sur l'antenne de BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.